L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste, correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Belaïd Abane, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris, politologue et historien, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérienne, pour la seconde émission qui sera consacrée à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Nous aborderons en particulier le rôle joué par l'Union soviétique dans la guerre contre l'Allemagne nazie à l'occasion de la journée de la victoire du 9 mai 1945. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Les nombreuses années qui se sont écoulées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ont produit des milliers de livres s'y rapportant. Il pourrait sembler qu'il n'y aurait dû avoir aucune lacune dans l'historiographie de ce conflit le plus sanglant et le plus horrible de l'histoire de l'humanité. Or, telle que cette historiographie est présentée, c'est plutôt le contraire qui est vrai. En effet, les historiens ont bien calculé le nombre exact de chars, de canons, d'avions et de troupes appartenant à chacun des pays concernés, mais n'ont pas réussi à répondre aux questions les plus simples, mais les plus fondamentales. On peut lire par exemple sur une page qu'Adolf Hitler prévoyait de conquérir le monde entier, tandis qu'une suivante nous dira, de manière tout à fait inattendue et bizarre, que l'Allemagne s'est avérée totalement non préparée à la guerre qui a éclaté en septembre 1939. Les nazis souhaitaient seulement attaquer la Pologne et ont spéculé sur le fait que la Grande-Bretagne et la France ne s'allieraient pas à elle. Cela expliquait le manque de préparation de l'Allemagne à une guerre à grande échelle. Il déclare également que la Wehrmacht était à court de bombes et qu'après la déroute de la France, qui n'a en fait pris que 6 semaines à l'Allemagne, l'armée avait épuisé toutes ses munitions. Ainsi vint la question, est-ce ça le genre de préparation à une conquête mondiale? 2 ans plus tard, cependant, Hitler a commis une erreur encore plus grave en attaquant l'Union soviétique. Le compte à rebours pour le Troisième Reich a commencé ce jour-là, le 22 juin 1941. Malgré son succès initial phénoménal, l'Allemagne roulait vers sa ruine imminente car elle s'est retrouvée à combattre sur 2 fronts. Comme le soutiennent unanimement les historiens et les experts militaires, cette guerre simultanée sur les fronts de l'Est et de l'Ouest a condamné la puissance militaire allemande à la destruction totale. Aussi, Adolf Hitler et ses généraux auraient-ils pu ne pas prévoir tout cela? Ainsi, qui a financé l'ascension du parti nazi jusqu'à son arrivée au pouvoir alors que l'Allemagne se trouvait en pleine dépression économique, financière et sociale? Pourquoi les puissances européennes garantes de l'exécution du traité de Versailles n'ont rien fait pour arrêter le réarmement de l'Allemagne? Tous les développements sur toutes ces questions fondamentales avec mon invité Belaïd Abane, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris, politologue et historien, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérienne. Professeur Abane, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
Bonjour Kamal, merci de m'avoir invité.
Alors, la première question, j'aimerais bien vous lire un extrait du témoignage de Hjalmar Schacht, l'ancien ministre de l'économie de Hitler, au procès de Nuremberg. Je cite, « Je dois dire que j'ai été déçu que le réarmement de l'Allemagne n'ait eu aucune façon été empêché par des actions des alliés. Cette soi-disant rupture de contrat de la part de l'Allemagne contre le traité de Versailles a été prise dans le calme. Des missions militaires, sous-entendu donc des alliés, ont été envoyées en Allemagne pour examiner ce réarmement et des expositions militaires allemandes ont été visitées et tout le reste a été fait. Mais rien du tout n'a été fait pour arrêter le réarmement de l'Allemagne. » Fin de citation. Alors, qu'en pensez-vous, M. Eben? Pourquoi la France et la Grande-Bretagne qui avaient laissé faire jusqu'à la trahison de la Tchécoslovaquie? Et que pensez-vous de la fameuse formule de la drôle de guerre que certains historiens utilisent avec un sens très raffiné de la formule pour qualifier la oisivité de l'armée française et pas loin de la ligne Maginot où ils jouaient à la carte, au jeu de cartes, au football, alors que le front Est brûlait sous les bombes?
Non, il y a beaucoup de questions en une seule. Ouais. D'abord, il ne s'agit pas de la France et d'Angleterre. Il s'agit plutôt de la plutocratie anglo-américaine, des anglo-saxons. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin des années 30, l'Amérique a connu une très grande crise économique, à savoir l'échec du New Deal du Roosevelt. Et donc, pour le capitalisme américain, il se retrouvait devant un cul-de-sac, que faire? Et c'est probablement, la guerre est probablement l'une des solutions à cette grande crise économique et financière. Deuxièmement, le ministre dont j'arrive pas à prononcer le nom, comment il s'appelle, le ministre allemand de la finance.
Ouais,
plutôt de la finance que de l'économie. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'ailleurs, lui n'a pas été condamné au procès de Nuremberg.
Absolument.
Tout simplement parce que il était la courroie de transmission entre les capitaux anglo-américains et le Parti National Socialiste qui est en train de se réarmer. Donc l'injection des capitaux, non seulement on n'a pas empêché l'Allemagne de surseoir au paiement des dettes en rapport avec le traité de Versailles, mais on a inondé l'Allemagne de capitaux pour une militarisation accélérée. Donc là, il y avait certainement un projet dans la tête de la finance anglo-saxonne. Alors, évidemment, on est troublé quand on sait que la première dérive du régime nazi, c'est d'avoir envahi la Tchécoslovaquie, soi-disant pour récupérer le territoire des Sudètes. Mais en fait, il y avait plutôt à récupérer tout l'or de la Tchécoslovaquie qui était entreposé dans les banques anglo-saxonnes. Et tout cela
s'est fait. La Banque d'Angleterre a renvoyé
par le
biais de la banque
des règlements internationaux. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, évidemment, l'annexion de l'Autriche par ce qu'on appelle l'Anschluss. Et enfin, les Français et les Anglais ont décidé de réagir parce qu'ils ont conclu des accords avec la Pologne lorsque l'Allemagne nazie a envahi la Pologne le 1er septembre 1939. C'est ça qu'il y a eu une déclaration de guerre. Mais tout ça, c'est un logiciel qui semble avoir été parfaitement bien calculé. Alors, il faut pas être angélique ni idyllique en disant qu'il n'y avait que quelque chose de prévu. Il y avait aussi une chose qui est certaine, c'est que dans l'esprit des Allemands et dans l'esprit des militants et des responsables du Parti National Socialiste, et Hitler en particulier, il y avait une revanche à prendre sur la France en particulier. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que la France et l'Allemagne ont connu un très long passé d'hostilité réciproque, de guerre, etc. Donc ça, et puis les injonctions, les obligations instaurées par le traité de Versailles, c'est quelque chose pour l'Allemagne qui était écrasant. L'Allemagne a été totalement écrasée.
Et c'est en fait TPC est ruiné complètement.
Mais bien sûr. Et donc la France lui a repris l'Alsace-Lorraine. Et c'est probablement les Anglo-Saxons qui ont sauvé l'Allemagne de la banqueroute, qu'elle a connue d'ailleurs en 1929. Mmh. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi? Pourquoi on a laissé faire?
Oui.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la phobie du capitalisme anglo-saxon, c'était la montée en puissance de l'Union soviétique. L'Union soviétique avec un immense territoire plein de richesses, et puis il y avait aussi la production. Les soviétiques commençaient à produire. C'est vrai qu'ils produisaient pas des biens de confort pour le peuple russe, mais ils produisaient des machines-outils, des usines, etc. Et cela ne pouvait que présager d'une très grande puissance soviétique qui inspirait une très grande peur aux États-Unis, en particulier qui était bien sûr l'autre hyperpuissance qui va émerger après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, évidemment, vous voyez, je suis en train de patiner parce que je n'ose pas aller au fond des choses. Est-ce que, en fait, il y a eu un téléguidage du régime nazi pour qu'il attaque l'Union soviétique? Ce qu'il faut savoir aussi, il faut le dire, ça c'est une vérité historique, c'est que l'ADN, le primo-ADN du régime nazi et de Hitler en particulier, c'est l'anticommunisme et l'anti-soviétisme.
Mais ça, il l'a dit, et ce n'est un secret pour personne. Pour ceux qui ont lu un peu, un ton soit peu, le Mein Kampf d'Adolf Hitler, il a déclaré son projet clairement dans ce.
Voilà. Donc, ça, on le savait, et il a été éduqué dans ce sens. Alors, pourquoi a-t-il attaqué prématurément l'Union soviétique alors qu'une année auparavant, ils avaient signé, une année auparavant ou deux ans, le pacte Ribbentrop-Molotov.
Vous connaissez
ce pacte de non-agression. Donc Hitler s'est dit, je vais commencer par l'Ouest, je signe un traité avec l'Union soviétique, ensuite j'irai vers l'Est. Et effectivement, deux ans après, donc l'Allemagne se lance dans ce qu'on appelle l'opération Barbarossa, et donc elle s'est cassée les dents sur un certain nombre de batailles, et la plus grande bataille sur laquelle elle va se casser les dents, c'est la bataille de Stalingrad.
Monsieur Eben, le 23 novembre 1939, Hitler prononce un discours devant un conseil du haut commandement de la Wehrmacht présentant les plans.
À quelle date
Novembre, le 23 novembre 1939.
Donc la guerre était déjà partie.
Oui. Donc des plans et tirant les conclusions, et il déclare, je cite, en 1914, une guerre sur plusieurs fronts a commencé. Cela n'a pas résolu le problème. Aujourd'hui, le deuxième acte de ce drame est en cours d'écriture, c'est-à-dire il parle de la Seconde Guerre mondiale. Nous devons affirmer, nous n'avons pas à mener une guerre sur deux fronts. Donc là, en novembre 39, sur deux fronts. Pour la première fois dans l'histoire, nous devons nous battre sur un seul front. Donc il parle du front occidental. Il n'y en a pas d'autre pour nous liés. La situation est maintenant telle que nous la pensions est réalisable. Alors, qu'est-ce qui lui a pris et qu'est-ce qui a pris à ces généraux pour se détourner tout de suite vers l'Union soviétique, alors qu'il y a le précédent de la campagne de Russie de Napoléon Bonaparte, il s'est complètement cassé les dents. Mais moi, ce qui me dérange encore et qui me choque, c'est qu'il y a des historiens qui disent que le plan de Hitler, donc pour justifier qu'il n'est pas vers l'Union soviétique, était d'aller détruire l'Union soviétique pour occuper la Grande-Bretagne par la suite. Donc, pour eux, moi, si je comprends bien, le chemin vers Londres passe par Moscou. C'est-à-dire, on vient à Moscou, puis on repart vers Londres. Alors que la France était occupée, et pour Hitler, avec sa grande armée qu'il lance sur l'Union soviétique, il lui suffisait seulement de traverser la Manche pour occuper la Grande-Bretagne. Alors, comment peut-on expliquer cette espèce de... Et puis, c'est-à-dire qu'il lance son armée sur l'Union soviétique, et le côté ouest est relativement calme après, sauf quelques tentatives de débarquement au sud de l'Italie et tout, mais c'était relativement calme jusqu'à juin 44. Comment on peut expliquer ça?
Oui, je pense que l'explication de cette explication est un peu farfelue, ce qui consiste à dire que pour prendre Londres, il faut passer par
Moscou.
Oui, non, je pense que c'est effectivement farfelu. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'une des cibles du régime hitlérien, c'est le pétrole notamment de l'Azerbaïdjan. Ça, c'est une donnée fondamentale. Mm-hmm. Mais quand je dis ça, c'est presque le symbole, c'est toutes les richesses d'une terre aussi vaste que celle de l'Union soviétique. C'est très important. Donc, alors on peut supposer qu'Hitler se soit dit, je vais attaquer l'URSS, c'est la clé de ma victoire, parce que si j'ai l'URSS, personne ne peut défier ma puissance. Il y a les hommes, il y a le territoire, il y a les richesses, il y a le pétrole, etc. C'est une première... Alors, qu'est-ce qui peut lui donner des ailes pour imaginer une telle chose? La première des choses, c'est que quand Hitler a attaqué, l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique, dans l'opération Barbarossa, ils n'étaient pas tout seuls. Ils étaient avec les Italiens, avec les Roumains, avec les Croates. Donc, c'est quand même une grande alliance militaire. Il y avait près de 800 000 hommes, c'est une armée immense. La troisième chose, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a un ADN. C'est comme si, en fait, le véritable objectif de la Deuxième Guerre mondiale, c'était d'attaquer l'Union soviétique et d'abattre l'Union soviétique. La preuve, vous le disiez, à l'Ouest, rien de nouveau. C'est pas la peine que je détaille cette formule. Le front s'est figé, pratiquement. Donc on a laissé se faire les choses. C'est comme si le but ultime de la Deuxième Guerre mondiale et le but ultime des Anglo-Américains, c'est comme s'il y avait un deal dès le départ, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ceux qui ont soutenu l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les financiers anglo-américains qui ont soutenu l'arrivée d'Hitler au pouvoir, parce que c'était un pays comme tous les autres, l'Allemagne.
Absolument.
Ils ont soutenu quelqu'un qui arrivait au pouvoir, c'est les mêmes qui ont soutenu Roosevelt. Ça, les gens ne le savent pas. Donc, il y a eu quelque chose. Quand on aide quelqu'un à arriver au pouvoir, il y a un deal.
Et puis, il y a l'histoire de cet agent américain, qu'on dit allemand aussi, Ernst Haustangel, qui faisait partie de la garde rapprochée d'Adolf Hitler. Mais quelques années après, donc c'est lui qui s'est chargé pour ramener l'argent au parti nazi. Mais quelques années après, on s'est rendu compte que c'était un agent américain et qu'il était un ami personnel de Roosevelt. Et c'est Roosevelt,
absolument,
après sa déchéance, c'est Roosevelt qui l'a récupéré.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est entre copains et coquins. Donc, c'est faut savoir. Alors, les banques américaines, JP Morgan, Rockefeller, Rothschild, etc., elles ont financé les deux parties. Elles ont donné de l'argent d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est vrai que c'est un mystère de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi il a attaqué? Est-ce que c'était prévu? Il a signé le pacte Ribbentrop-Molotov pour endormir l'Union soviétique, mais l'Union soviétique a très bien compris aussi que l'objectif ultime des nazis était de les défaire.
Mais il y a aussi un témoignage justement dans les archives de Joachim von Ribbentrop, donc le ministre des Affaires étrangères d'Adolf Hitler, et qui disait que c'était une grave erreur d'attaquer l'Union soviétique.
Et il ne faut pas oublier que tous les ministres d'Hitler n'étaient pas au fait de tous les secrets du régime nazi. Ribbentrop était un haut cadre nazi, mais probablement que c'est dans les cercles restreints que des décisions d'une si haute importance se prenaient, à savoir déclencher le Troisième Reich qui allait se lancer à l'assaut de l'Union soviétique. Mais ça, effectivement, ça reste une donnée très mystérieuse. Est-ce qu'il faut avoir l'audace de dire que c'était programmé dès l'accession d'Hitler au pouvoir? Ça, c'est difficile, hein, c'est difficile à dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ADN nazi, et notamment celui d'Hitler, c'est d'abord l'anticommunisme et l'antisoviétisme. Et ce qu'il faut pas, faut dire aussi que un certain nombre d'idéologies, une partie de l'idéologie nazie s'est bâtie sur les fonds baptismaux de la finance américaine. Quand je parle par exemple de l'eugénisme, ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'eugénisme allemand a été fondée sur les fonds baptismaux de la finance rockefellerienne.
Rockefeller, oui. David Rockefeller, oui.
Absolument, qui a financé toutes les études sur l'eugénisme allemand. Donc il y a beaucoup de choses qui restent dans l'ombre et qui ne sont pas...
Il y a une chose que, alors que l'exemple de la destruction de l'armée de Napoléon Bonaparte dans la campagne de Russie est plus qu'édifiant. Et des historiens expliquent qu'en mettant en déroute l'URSS, Hitler voulait contraindre la Grande-Bretagne à un accord de paix. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en réalité, cet aspect-là, qu'il y avait un aspect de l'économie? C'est un peu comme la finance et l'économie sont un peu la trame de tous les événements qui se passent autour et qui génèrent justement ce genre de mouvement dans l'histoire.
Et évidemment, Hitler, c'est un produit de son époque. Et évidemment, il y a de l'économie, il y a des finances, il y a de l'histoire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est le long passé des rivalités entre l'Allemagne et le bloc anglo-saxon et bien entendu avec la France. Donc ça, c'est indéniable. Il y a une dimension, une très grande dimension économique à la guerre de 39-45. On a souvent tendance à réduire cette guerre et la montée du nazisme à cette dimension idéologique, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la dimension idéologique. Loin s'en faut, j'allais dire. L'Allemagne a été un pays vaincu, et d'ailleurs
faible,
vaincu de la première guerre mondiale.
Et faible et donc, économiquement, industriellement.
Bien sûr, ça l'a empêché de se développer. Mm-hmm. Et après, il s'est développé grâce à l'apport des anglo-saxons. Il a fait la guerre et il se retrouve de nouveau dans la position d'un pays vaincu. Qui vient de se réarmer contre toujours le même ennemi. Voilà, maintenant 100 milliards pour faire une projection dans le présent. Mais je pense que pour ça, il vaut mieux en rester là parce qu'il faut avoir des preuves factuelles.
D'accord. Et pour cet accord-là de Ribbentrop-Molotov, que les deux parties ont signé le traité de non-agression, justement, ça, il donne quand même pas mal d'aspects qui sont curieux. Comment un pays qui t'assure qu'il ne va pas t'attaquer, il vous assure pas qu'il ne va pas t'attaquer, il ne fait pas d'embargo sur l'Allemagne. Tout les cheminements des matières premières qui venaient du Nord, notamment de Norvège ou de Finlande, il n'y avait pas de problème à leur passage. Et c'est cette partie-là que Hitler décide d'attaquer. Et pas ceux qui lui ont fait l'embargo et pas ceux qui il avait des problèmes au départ.
Il ne faut pas oublier que c'est la France et l'Angleterre qui lui ont déclaré la guerre en 1939. Donc Hitler fait la guerre à ceux qui lui ont déclaré la guerre. Mmh. C'était dans la logique. Et ce n'est pas... il n'a pas signé de pacte de non-agression avec lui, avec les Français, ni avec les Anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce pacte de Ribbentrop-Molotov et rappeler franchement les accords de Minsk.
Absolument.
C'est-à-dire, chacun voulait gagner. Comment on appelle ça ? Chacun fait ses petits calculs. Moi, je signe un pacte pour ne pas l'attaquer pour le moment, tant que je ne suis pas encore. Tant que la situation n'est pas propice, j'allais dire tant qu'il n'a pas reçu le feu vert. Mais le feu vert de qui ? Bon, on peut spéculer sur ça. Les Russes aussi, ils étaient convaincus qu'ils seraient attaqués. Ils ont signé un pacte pour temporiser, se préparer. Et ils se sont de fait préparés. Sinon, ils n'auraient jamais pu répondre aux attaques de 800 000 hommes, une coalition de 800 000 hommes qui a attaqué un peu toutes les grandes villes russes et qui s'est fini par se casser les dents à la bataille de Stalingrad.
D'accord. Voilà. Et justement, par rapport à ça, il y a la déclaration de Staline au congrès du Parti communiste quelques mois ou quelques semaines, je ne me rappelle pas bien, après donc l'arrivée d'Hitler en Tchécoslovaquie, après la tombée de la Tchécoslovaquie. Et là, il adresse un discours où il dit que celui qui veut faire une guerre avec un pays, il s'arrange pour avoir des frontières avec ce pays. Donc, indirectement, il accusait, parce que le discours était adressé certes aux membres du Parti communiste, mais aussi aux puissances étrangères, en disant, en indexant le fait que la France et la Grande-Bretagne avaient laissé faire Hitler en Tchécoslovaquie, c'est qu'en réalité, Staline disait qu'on comprend votre plan de vouloir faire en sorte que le Troisième Reich et l'Union soviétique aient des frontières communes. Et c'est un peu ça qui a un peu suscité l'accord Ribbentrop-Molotov pour qu'il y ait un espace, un tampon de sécurité pour l'Union soviétique.
Je pense que ça fait partie de ce marché de dupes. C'est-à-dire, moi je te dupe, toi tu me dupes. Donc c'est une façon de dire, c'est un peu comme si entre vous et nous, on va fumer le calumet de la paix. Pour le moment, on ne s'attaque pas. Et puis il y avait un prétexte aussi, c'est la récupération de cette région qu'on appelle les Sudètes, qui était germanophone. Mmh. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ça, parce que je ne connais pas cette déclaration de Hitler. On peut simplement dire que ça faisait partie aussi du plan d'endormissement de l'Union soviétique, ce marché de...
D'accord. Alors maintenant, ceux qui accusent justement les historiens qui accusent l'Union soviétique d'avoir contribué à l'ascension d'Adolf Hitler et que l'accord Ribbentrop-Molotov était justement un accord qui a permis à Hitler de s'enrichir, d'enrichir son pays, de préparer son armée. Qu'est-ce qu'on peut dire?
C'est farfelu, c'est vraiment farfelu. On peut peut-être inverser les choses, non ? Ce qu'on peut dire, c'est que les anglo-saxons ont tout fait pour détourner Hitler plutôt vers l'Est. C'est ce qui, c'est l'hypothèse la plus logique et la plus vraisemblable. L'Union soviétique, évidemment, c'était un modèle qui créait de la phobie partout, notamment dans le monde, dans le capitalisme anglo-saxon. Donc, on peut comprendre aisément que ce régime-là n'était pas en odeur de sainteté et qu'il étouffait. Et du reste, il y a des faits, des actes. En tout cas, la finance anglo-saxonne a largement alimenté la militarisation de l'Allemagne. Donc, dire que c'est au contraire l'Union soviétique qui a favorisé la montée d'Hitler, ça c'est absolument... Peut-être l'avènement du communisme a suscité aussi l'avènement de mouvances anticommunistes. Ça, c'est tout à fait logique. Mais dire que lier directement la montée du nazisme à l'Union soviétique, ça ne...
Non, parce que justement,
dans cette... On l'a lié surtout au traité de Versailles, plutôt au traité de Versailles.
Absolument. Parce que même dans cette période-là, c'est qu'il y a eu un mouvement communiste et un mouvement socialiste dans l'Allemagne nazie. Il a été maté. Et justement,
Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht.
Absolument, ils ont été exécutés.
La République de Weimar, oui, tout à fait.
Ils ont été exécutés et Hitler a participé justement dans cette machinerie.
Absolument. Ouais. Alors qu'il y ait des amitiés secrètes entre les nazis et les soviétiques, c'est absolument une hypothèse totalement farfelue. Parce que le primo ADN du nazisme et de Hitler, en particulier, c'est l'antisémitisme. Ça, c'est pas possible.
D'accord. Alors, maintenant, la question suivante, elle concerne justement le rôle directement de l'Union soviétique dans la lutte contre l'Allemagne nazie. Alors, nombreux sont les historiens militaires qui affirment que l'armée allemande a été défaite à Stalingrad. Et pour cause, ils affirment que depuis cette bataille, la Wehrmacht avait perdu toute capacité d'initiative stratégique et s'est mise à se replier jusqu'à Berlin. Alors, quel est votre avis sur cette question-là?
Bon, l'armée allemande a subi de nombreuses défaites dans toutes les villes qu'elle avait tenté de prendre en Union soviétique. Ce qu'il faut dire, c'est que la bataille de Stalingrad, qui a engagé près de 800 000 soldats de l'alliance germano-croato-italo-roumaine, les soviétiques ont engagé près d'1 200 000 hommes. Donc il y a au total 2 millions d'hommes qui sont engagés dans cette bataille. Et bien entendu, il y a eu, au cours de cette bataille, 100 000 civils russes, soviétiques, qui sont morts. La défaite de l'Allemagne à la bataille de Stalingrad est un tournant majeur. Mmh. C'est un tournant majeur parce qu'il arrive après plusieurs autres petites défaites et qui a stoppé, pas net, mais il a stoppé l'avancée de l'armée allemande. Et ça, c'est survenu en février 1943, la défaite allemande. Et ça correspond presque au débarquement anglo-américain en Provence et en Afrique du Nord. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu deux revers majeurs du Troisième Reich en 1943. La défaite sur le front ouest et l'entrée en guerre des anglo-américains dans le front sud. Donc effectivement, la bataille de Stalingrad, c'est, par son ampleur, c'est un tournant majeur dans l'évolution vers la défaite du Troisième Reich. Donc ça, tout à fait d'accord. En plus, elle est hautement symbolique. Et puis, ça a donné des ailes aux Soviétiques qui se sont repris très vite et qui ont poursuivi l'armée allemande jusqu'à Berlin, pratiquement. Mm-hmm. Pas pratiquement, mais jusqu'à Berlin.
D'accord. Et justement, une dernière question, c'est à peu près comme on le voit actuellement... Nous avons vu ça en Syrie, nous avons vu ça en Afghanistan. Les Américains disent que ce sont eux qui ont vaincu le terrorisme en Irak et en Syrie. Ils ont fait en sorte aussi, je ne sais pas comment, par quelle alchimie, en Afghanistan, qu'ils ont quitté dans la précipitation. Toute la période où l'Union soviétique justement combattait seule, la partie ouest se contentait uniquement de mener des bombardements. C'est-à-dire, la bataille était dans les airs. Est-ce qu'on peut pas trouver justement une espèce de parallèle avec ce qui se passe actuellement? C'est fait de s'attribuer des victoires juste par le fait d'avoir bombardé sans combat au sol, sans payer de vie humaine. Et actuellement, qu'on fait avec même les drones à partir de la Californie avec.
Je dirais nos commentaires. Il est vrai que les méthodes de guerre ont considérablement changé. Les Américains ont inventé le concept de zéro mort. Le concept de zéro mort n'est compatible qu'avec un pays à la puissance technologique infinie. C'est-à-dire bombarder à partir de 10 km d'altitude, de tuer des gens au sol, évidemment, on ne risque pas grand-chose, ou même de bombarder à partir d'un PC militaire en Californie ou à, comment ça s'appelle, à Houston. Évidemment, c'est zéro mort et c'est un concept qui a été repris par un certain nombre de pays, notamment des pays occidentaux. Et puis c'est très facile de s'attribuer des victoires dans ce cas-là, évidemment, mais quand il s'agit d'affronter l'ennemi face à face sur Terre, on voit aussi que malgré le déversement de millions de tonnes de bombes et d'agents orange au Vietnam, les Américains quand même
ils ont perdu toutes les guerres, ils n'ont gagné pratiquement aucune.
Est-ce qu'il s'est passé en Afghanistan aussi, c'est une sorte de défaite honteuse, non pas parce qu'ils ont perdu une guerre, parce que bon, militairement on ne peut pas dire que les Américains peuvent perdre une guerre, mais c'est simplement pour avoir abandonné sur le terrain tous leurs alliés et puis tout un certain nombre de populations dans la détresse. C'est ça qui est terrible. Voilà. Mais on est bien d'accord que faire la guerre...
Parce que justement, il y a toujours cette dualité dans les livres d'histoire de qui a vraiment vaincu le nazisme. Parce que c'est les Occidentaux ou l'Union soviétique. Alors qu'en réalité, le combat au sol pour les Occidentaux a commencé en juin 44. Ils ont fait pratiquement la guerre une seule année. Et on se demande comment on peut s'attribuer une victoire comme celle-là, alors que l'Union soviétique a payé 26 millions de victimes de tribus pour justement gagner la guerre.
Absolument. Oui. C'est très facile de s'attribuer des victoires, mais comme l'Amérique, le monde occidental se situe du côté du vainqueur, donc ils ont fait une histoire à leur façon. Comme aussi l'Union soviétique fait l'histoire à sa façon, parce qu'on appelle l'histoire du vainqueur. Mais bon, il y a de vrais vainqueurs et des vainqueurs un peu moins vrais. Voilà, c'est pour dire une formule. Parce que effectivement, c'est le gros tribut a été payé par l'Union soviétique. Vous dites 26 millions, moi j'ai souvent entendu le chiffre de 29 millions. C'est terrible, 29 millions de morts, c'est pas rien. En fait, c'est le pays qui a payé le plus cher. La partie la plus chère à la guerre. Voilà. C'est vrai que dans le narratif occidental, la contribution russe est presque dérisoire.
D'accord.
Sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est cocasse quand même. Hein. Ça, c'est cocasse.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Belaïd Aban, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris, politologue et historien, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérienne. Professeur Aban, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
Merci à vous.
La première question que j'aimerais vous poser, c'est que le front Est, durant la Seconde Guerre mondiale, était à feu à sang, le front Ouest connaissait un calme relatif prolongé jusqu'au débarquement de Normandie en juin 1944. Alors, peut-on considérer que la contribution majeure de la défaite des nazis a été apportée par l'armée soviétique?
Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. On peut dire simplement que la défaite du nazisme est le fait d'une contribution déterminante pas, elle n'est pas la seule de l'Union soviétique. Ce qu'il ne faut pas dire quand vous dites le calme relatif du front ouest, c'est qu'il ne faut pas oublier que les V1 et les V2 allemands ont continué à bombarder Londres et les villes anglaises que la France était occupée. Donc il n'y avait pas lieu de se battre. C'est vrai que de ce point de vue-là, il y avait un calme relatif. France occupée, Angleterre insulaire qui recevait des V1 et des V2. Donc effectivement, c'était relativement calme. Et d'autre part, l'Amérique n'était pas entrée en guerre et que l'Angleterre se préparait à rentrer en guerre. Elle n'était pas tout à fait prête, elle se préparait à rentrer véritablement en guerre, à savoir le débarquement. Donc on peut dire que la contribution a été déterminante, mais ce n'est pas la seule. On ne peut pas dire que c'est... Parce que sans l'entrée en guerre de l'Amérique et de débarquement anglo-américain, l'Afrique du Nord, en Provence, etc., il est difficile.
Non, c'est je disais que c'était la contribution majeure, la plus importante.
Oui.
La plus importante.
C'est une contribution déterminante.
Ouais.
On peut le dire comme ça plutôt. Après, je suis prêt pour faire une étude sur cette partie de l'histoire pour dire qu'est-ce qui a véritablement déterminé l'issue de la guerre. Voilà.
D'accord.
C'est vrai que si Hitler avait occupé l'Union soviétique, les champs de pétrole de l'Azerbaïdjan et toutes les richesses de l'Union soviétique, effectivement, le tournant de la guerre aurait été tout à fait. L'issue de la guerre aurait été sans doute différente.
D'accord. Alors, maintenant, j'aimerais vous poser une question concernant le procès de Nuremberg. Alors, le procès de Nuremberg n'a pas réussi à élucider toutes les questions sur l'apparition et l'ascension du nazisme, malgré la condamnation à mort de nombreux de hauts dignitaires, notamment militaires. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui a failli dans l'organisation de ce procès ? D'un point de vue, disons, si j'ose dire, épistémologique, c'est-à-dire la façon, c'est-à-dire qu'on s'est précipité à prendre des gens et à dire que c'est des monstres, on les juge, on les exécute, c'est bon, c'est des monstres, nous, ce n'est pas le cas, et donc, mais on ne se pose pas la question du système dans lequel ils ont fait en sorte justement à ce qu'ils deviennent comme ça. Parce qu'il faut bien rappeler que l'Allemagne était quand même le pays européen sur le plan culturel, scientifique et tout, le plus rayonnant, hein, tous les musiciens, les philosophes, les scientifiques. Comment un tel pays a enfanté d'un monstre comme le nazisme.
Ce qu'on peut dire, c'est que le procès de Nuremberg n'a pas été le procès du nazisme, il a été le procès de nazis. Donc en fait, on a pris des...
La nuance est très importante.
Bien sûr, très importante, on a pris plutôt des lampistes, parce que le gros poisson qui était la cheville ouvrière de la montée du Parti national socialiste ont échappé, à commencer par le ministre des Finances. Je n'arrive pas à prononcer son nom. Hjalmar Schacht, qui était présent, mais qui est sorti indemne du procès de Nuremberg. Alors, parce que si on avait fait le procès du nazisme, on serait remonté quand même à sa jeunesse. Sa jeunesse, il y a une partie qui est historique, une partie idéologique, et il y a une partie financière, parce qu'on ne peut pas construire un appareil militaire tel que celui des nazis sans un apport financier considérable. Et d'où vient la finance ? Si on avait été jusque-là, d'où vient la finance du nazisme ? Alors à ce moment-là, probablement qu'on aurait fait le procès du nazisme. Là, on a jugé des gens qui étaient impliqués, des gens, et on les a jugés pour des faits tout à fait, des faits très, j'allais dire, des choses factuelles. Voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as donné tel ordre, etc. Mais le système, de manière générale, n'a pas été utilisé. Il a peut-être jugé idéologiquement dans la presse, mais pas au procès de Nuremberg. C'est un tribunal, il ne faut pas oublier. Alors, on ne juge pas des idées, on juge des hommes. Voilà. Et puis probablement aussi qu'on n'avait pas intérêt
Mais il y a toute cette partie-là, justement, qui était derrière le rideau. Ce que vous, vous expliquez, qui a fait que cet appareil-là a grandi pour devenir le monstre qui a détruit toute l'Europe. Bien. Alors, maintenant, il y a une chose sur laquelle... Donc, il y a le parti, il y a les services de l'enseignement allemands, en particulier ceux qui ont été à l'Est et qui ont travaillé sur durant la guerre contre l'Union soviétique. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup ont été récupérés par les services de l'enseignement anglo-saxon. Ils en ont fait le fer de lance, soi-disant, de lutte contre l'Union soviétique ou contre l'idéologie communiste. Et il y a beaucoup qui étaient des têtes dans le service de l'enseignement allemand, comme le général Reinhard Gehlen. Et c'est lui qui a constitué tout le premier noyau. Et des historiens disent que c'est ce noyau-là qui est le premier embryon de ce qui est devenu par la suite en Europe le gladio utilisé par l'OTAN dans ces guerres contre l'Union soviétique. Comment ça se fait? C'est-à-dire, il y a quand même une question qui me fascine, une situation qui me fascine. Dans les médias, on accuse le nazisme. Dès que vous ouvrez votre bouche, vous êtes accusé de nazi, de facho et tout. Mais on met à l'intérieur d'un système sécuritaire des nazis authentiques. Et comment tout ça est possible?
Ouais, les États ont des raisons que la raison ne connaît pas. Et mais on peut même prendre des exemples très concrets. Quand vous voyez les nazis ukrainiens, et qui c'est qui les a récupérés? On commence par Stepan Bandera.
Oui, absolument.
C'est les Américains et beaucoup d'autres d'ailleurs. Mm-hmm. N'oublions pas également que beaucoup de scientifiques allemands, même des scientifiques nazis, ont été récupérés aussi par la recherche américaine. Mm-hmm. Donc, c'est ça, c'est les intérêts d'abord. La morale, on n'en a que faire. Donc, ça, c'est vrai qu'on peut s'indigner, mais l'indignation ne permet pas de comprendre les choses. C'est vrai. Voilà.
Non, mais c'est que
chaque fois que quelqu'un est utile, on oublie son passé. Si quelqu'un peut être utile, on oublie son passé. Et ça se fait même dans le droit commun. Mm-hmm. Un mafieux qui peut être utile, on peut le récupérer, effacer. Alors, vous avez prononcé le mot gladio. Je pense pas qu'on peut aller jusque-là. Hein. Ça, c'est un terrain qui est miné. C'est difficile de s'avancer sur tout terrain-là parce qu'il faut aussi avoir des preuves.
D'accord.
C'est peut-être pas un thème qu'on peut débattre dans une émission sur un peu les différents aspects de la Seconde Guerre mondiale et notamment le rôle de l'Union.
Justement, ce service de l'enseignement, comme vous le relevez, justement, non seulement il a fait beaucoup d'Ukrainiens donc durant la Seconde Guerre mondiale, mais même après la Seconde Guerre mondiale, parce que Stepan Bandera justement menait des opérations contre l'Union soviétique jusqu'à au jour où il a été assassiné, je crois que c'était en 1950, la date n'est pas très importante. Et ce noyau, justement, actuellement, on fait référence à ce personnage comme étant un héros national. Et c'est cette même idéologie qui est actuellement sous-jacente à toute l'action du gouvernement ukrainien depuis 2014, depuis le coup d'État de 2014. Comment peut-on actuellement justement et aller dans le sens de l'histoire et dire que ce sont eux donc qui se battent pour la liberté et attaquant ceux qui se sont sacrifiés justement pour mettre un terme aux nazis.
C'est effectivement assez aberrant. Ce qu'il faut savoir simplement, ce qu'il faut nuancer simplement, c'est que la descendance idéologique de Stéphane Bandera n'a pas imprégné tout l'appareil étatique ukrainien. Il y a des partis, il y a des mouvements, il y a des groupuscules qui se revendiquent de l'idéologie de Stéphane Bandera et qui, malheureusement, avec les encouragements d'une frange de l'État ukrainien et même de l'Occident, ils ont investi l'armée et l'appareil étatique ukrainien. Et c'est probablement cela qui a fait que les Russes, notamment Poutine, on parle de dénazification. Est-ce qu'il veut dénazifier l'État ukrainien ou l'armée ukrainienne? C'est une nuance à apporter parce que il est difficile de s'avancer, de dire que tout ce monde-là est une descendance nazie. Mais effectivement, c'est un paradoxe que ceux qui se sont libérés du nazisme luttent contre ceux qui, en tout cas une partie de ceux qui se réclament du nazisme, et qui parlent de liberté. Ils parlent de liberté, qui ont été en plus antisémites et qui ont liquidé des juifs, une partie de du drame de l'extermination des juifs s'est passé aussi en Ukraine. C'est ce qu'il faut
en Ukraine, en Pologne.
Donc ça, c'est un paradoxe. Et ça a mis beaucoup d'ailleurs de juifs européens très mal à l'aise, en se disant comment peut-on soutenir des gens qui ont exterminé des juifs? Nous, juifs, comment peut-on soutenir des gens qui ont exterminé des juifs? Donc c'est un très grand paradoxe qui fait que l'Occident, en tout cas certains penseurs occidentaux, notamment même parmi eux des juifs, comme Victoria Nuland, etc., comment peuvent-ils se résoudre à soutenir des gens qui, alors qu'ils sont juifs, des gens qui ont exterminé des juifs? Et en France aussi, il y a des gens qui sont très très mal à l'aise avec le soutien qu'on apporte à l'establishment ukrainien, qui est un peu gangréné par l'idéologie néo-nazie de Stéphane Bandera et de sa descendance idéologique. Donc c'était un vrai problème.
D'accord. Pour une dernière question, pensez-vous que les populations dans le monde, notamment européens, ont accès à assez d'informations et à l'histoire réelle de la Seconde Guerre mondiale? Et n'y a-t-il pas un risque, justement, dans le sommet que connaît la raison actuellement avec ce qui se passe en Ukraine, que d'autres monstres apparaissent et conduisent le monde à nouveau à l'abîme?
Moi, ce que je vois, ce que je crois, c'est qu'il y a un repli général sur soi. Quand vous parlez des populations, les populations ne cherchent pas à comprendre ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les populations, ou qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit en Algérie, que ce soit en France, aux États-Unis, les populations ont la tête dans le guidon. C'est-à-dire, ils s'occupent des multiples problèmes, de multiples misères de la vie quotidienne. La vie chère, l'avenir incertain, etc. Donc, c'est très difficile de demander à des gens d'aller se pencher pour comprendre ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Par contre, le rôle des médias, effectivement, ça aurait été, parce que par le conditionnel, parce que malheureusement ce n'est pas fait, ça aurait été de se poser des questions. Or, les médias ne posent pas du tout de questions. Ils ont presque une sorte de cahier des charges à déployer sur les antennes de télévision, ils le disent, et très peu d'intellectuels posent les vraies questions. Malheureusement, ceux-là n'acceptent presque plus jamais aux médias qu'on appelle mainstream, les grands médias. Alors, si on veut développer des idées un peu originales, un peu iconoclastes, même un peu complotistes, si j'ose dire, parce que pour moi, c'est pas péjoratif, c'est qu'un complotiste, c'est quelqu'un qui est questionniste, qui se pose des questions. Donc, ce genre de questionnement, malheureusement, ne trouve plus sa place dans les
et c'est d'autant
circuler,
plus
circuler, il n'y a rien à voir.
C'est d'autant plus dangereux parce que, moi j'ai posé cette question, parce que les conditions actuelles, quand on voit la situation économique du monde, l'endettement, la crise financière, les faillites bancaires, la dégradation de la vie des gens, la dégradation du pouvoir d'achat, la misère et la pauvreté qui progressent partout, et en plus de ça, sur fond de progression de dépenses militaires, le rapport du CIPRI, par exemple, pour l'année 2022, il parle d'une explosion de dépenses militaires, alors qu'il pourrait être utilisé justement pour résorber les problèmes dont souffrent les gens. Et avec tout ça, dans tout ce magma-là, on voit la réapparition de ce genre d'idéologie extrêmement dangereuse, simplificatrice, simpliste, et qui pourrait justement être exploitée encore une fois si, en fait, l'histoire ne se répète pas comme disent, mais elle bégaye, et ouais, les mêmes conditions mènent toujours au même résultat.
Malheureusement, elle est en train de se répéter, parce que les monstruosités avancent parfois déguisées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que vous dites est une vérité affligeante. Vous avez un budget militaire américain qui va arriver maintenant à 1 000 milliards de dollars. Vous imaginez ce que c'est que 1 000 milliards de dollars ?
Oui.
Budget militaire seulement, c'est le PIB d'un pays comme la Turquie. La Turquie n'est pas encore arrivée à 1 000 milliards de dollars. Le PIB de la Chine est en progression, 250 milliards de dollars. L'Allemagne a débloqué 100 milliards de dollars pour l'armement. Le Japon, sur 4 ans, 400 milliards de dollars. C'est quelque chose d'incroyable, alors que le monde, j'allais dire, le monde crève de faim.
Absolument.
La population mondiale crève de faim. Il y a encore tout à faire. Il y a une régression terrible du pouvoir d'achat partout dans le monde, de la misère, les gens n'arrivent plus à se soigner. Là, la question de l'accès à l'eau, aux soins, à l'éducation, est devenue problématique. Je ne parle pas de l'immédiat, l'immédiateté où nous sommes, c'est-à-dire la France, la Russie, la mer, mais le monde va mal. Et curieusement, le monde n'a jamais produit autant de richesses.
Absolument.
Et le monde crie à la famine financière, c'est-à-dire il n'y a pas d'argent, alors qu'on engage des centaines et des centaines de milliards de dollars pour faire la guerre. Quand on dépense 1 000 milliards de dollars pour la question militaire, ça veut dire qu'on va faire la guerre. Ça veut dire qu'on va faire la guerre. Et quand la Chine augmente son budget militaire, ça veut dire qu'elle s'attend à faire la guerre également. Et la France va l'augmenter également. La loi de programmation prévoit aussi une augmentation du budget militaire. Donc, il faut s'attendre à... On ne fabrique pas des armes pour les laisser côté. On fabrique des armes, on élève des soldats, on finance des bases militaires. 1 000 bases militaires américaines dans le monde. 1 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire la guerre. Et malheureusement, ça chemine... Alors quand vous demandez aux gens d'essayer de comprendre la Deuxième Guerre mondiale, c'est le... Protégez-moi plutôt de l'avenir plutôt que du passé. Le passé, je l'ai déjà vécu. C'est ça qui est terrible.
Mais c'est que malheureusement, c'est la même dynamique. Même si les conditions ont changé, on retrouve à bien des égards les mêmes intérêts qui tirent les ficelles et les mêmes acteurs, même si les conditions ont changé. Mais c'est le même fil. Bien.
Alors, les monstruosités avancent à visage couvert et déguisé. Ça peut se développer.
Et encore.
On va la prendre à nos dépens. Ouais.
Encore une question, monsieur Ben. Il y a beaucoup. J'aimerais revenir un peu au mouvement national algérien. Par rapport à ce que nous avons dit donc, dans la première émission, il y a beaucoup d'Algériens. De gens qui étaient dans le mouvement national et qui ont combattu dans les rangs, parmi les rangs des nazis.
Oui, c'est pas beaucoup.
Il y a certains. Ouais. Donc, il y a pas mal. Je voulais dire qu'il y a certains qui reprochent cet aspect-là en disant qu'ils ont transposé un peu cette idéologie dans le mouvement national et la guerre de libération. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah non, ça me hérisse quand on parle de ça. Ça me hérisse. C'est le roman de Boalem Sansan, Le village de l'Allemand.
Absolument.
Quand on parle de ça, je trouve absolument scandaleux qu'on écrive des choses pareilles, à savoir que le mouvement national algérien était investi par l'idéologie nationale socialiste, c'est-à-dire de la race pure, de l'antisémitisme, etc. Je ne veux pas parler de la question de l'antisémitisme de manière générale, qui existe malheureusement dans le...
D'ailleurs, Abban Ramadan, justement...
Absolument, il fait l'appel aux Juifs.
Ah, mais absolument, en leur disant que vous êtes des citoyens algériens à part entière.
Absolument. Mais pour revenir à la question des Algériens qui ont combattu dans les rangs du nazisme, c'est une prise de cause. Ça s'appelle le CARNA, Comité Algérien, etc. C'est une très petite minorité qui s'est engagée aux côtés des nazis selon le principe que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est-à-dire, je marche avec les Allemands, parce que ce sont les ennemis de mes ennemis, c'est-à-dire la France coloniale. Mmh. Et donc, ils se sont... l'exemple le plus connu, vous le savez, c'est Mohamed Issaïe qui est devenu colonel de l'ALN, colonel de la Wilaya 3. Mais, effectivement, Mohamed Issaïe, c'est pour ça qu'il a écrit son livre, comment il s'appelle, Boalem Sansan. Parce que Mohamed Issaïe est effectivement un musulman intégriste, un islamiste intégriste, qui est aussi, quelque part, un peu antisémite. C'est le gros antisémitisme, pas très dangereux, parce qu'il n'a aucun... Il n'a pas de plan pour exterminer les Juifs. C'était un antisémitisme basique. Mais ce n'est pas pour autant que dans les rangs de...
Disons culturels. Culturels.
Non, pas du tout. Pas du tout. L'appel aux Juifs est très clair. Mmh. Les Juifs sont nos frères. Les Juifs sont en partie intégrants de la nation algérienne qui sortira de l'indépendance. Mmh. Et beaucoup du reste, il y a beaucoup de Juifs qui ont combattu dans les rangs de l'armée de libération nationale et qui était dans les FLN. Et j'en ai, moi, personnellement connu.
D'accord.
Qui parle de l'Algérie comme leur véritable parti, à commencer par Daniel Timsit, hélas.
Lequel, s'il vous plaît ?
Daniel Timsit. Mm-hmm. Daniel Timsit qui a écrit... deux livres d'ailleurs, et que j'ai personnellement connu. C'est un homme d'une trempe exceptionnelle qui parle en berbère, qui parle en arabe et qui parle de l'Algérie. Et comme moi, je ne sais pas en parler, tellement lui, il a encore plus dans les doutes, plus que moi. Mm-hmm. Voilà. Et il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup. Hein. Mm-hmm. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas d'idéologie antisémite ou nazie dans les rangs de... D'ailleurs, je vais rendre justice à Messali. Quand les gens du Tarn sont allés le voir pour lui dire qu'il faut s'engager aux côtés des Allemands, il a dit non. Il a dit non. Il a dit, vous ne savez pas que Hitler, ce qu'il pense de nous, il dit que les Arabes, c'est la dernière race après les crapauds. C'est une phrase qui a été citée par Messali. Est-ce que Hitler l'a dit? Je ne sais pas. Mais Messali, il a dit non, aidons les Français à régler leurs problèmes avec l'Allemagne. Ensuite, nous allons nous retourner contre l'occupant colonial pour revendiquer notre part de liberté et d'indépendance.
Parce que moi, j'ai entendu dernièrement des accusations qu'il y a cette espèce de glorification, disons, d'un point de vue culturel, du nazisme ou de Hitler en Algérie. Mais, alors qu'on oublie justement qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'Algériens ont donné leur vie justement pour le combattre.
Évidemment.
Voilà, c'est quand même hallucinant.
Ils n'ont pas déserté le champ de bataille pour aller vers les Allemands.
Oui, absolument.
Ils
auraient
dû faire. Mais ils ne l'ont pas fait.
Ouais.
Ils l'ont pas fait.
Voilà. D'accord.
Il n'y a pas d'idéologie nazie dans le mouvement national nazie.
Je vous remercie, Monsieur le Bled Abban. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Et j'espère que nous avons réussi à éclairer quelques zones d'ombre dans ce sombre épisode de l'histoire de l'humanité. Professeur Abban, j'espère aussi vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était Belaïd Aben, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris, politologue et historien, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérienne.
Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj. Chers auditeurs, permettez-moi de vous présenter toutes mes sincères et chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à l'occasion de ce jour de la victoire et de la fête de la victoire sur le fascisme et le nazisme. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.